Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, c'est précisément la rue que l'on traverse pour aller acheter des biscuits. Aujourd'hui, elle est un lieu de spectacle, des yeux dans les yeux, la rencontre, la déambulation. C'est parti. Vivre une vie entièrement privée, écrit Hannah Arendt, c'est avant tout être privé de choses essentielles à une vie véritablement humaine. Être privé de la réalité qui provient de ce que l'on est vu et entendu par autrui. Être privé d'une relation objective avec les autres qui provient de ce que l'on est relié aux autres et séparé d'eux par l'intermédiaire d'un monde d'objets communs. Être privé de la possibilité d'accomplir quelque chose de plus permanent que la vie. La privation tient à l'absence des autres. En ce qui les concerne, l'homme privé n'apparaît point, c'est donc qu'il n'existe et point. Hannah Arendt, la condition de l'homme moderne, citée par Marie Escorn, la rue comme espace d'apparition. C'est pour nous aujourd'hui, il est 14h passé de 1 minute, bienvenue à vous dans les Nouvelles Vagues. Vers 14h50, chaque jour, les nouvelles vagues passent au singulier pour entendre des récits de moments marquants. Depuis lundi et jusqu'à vendredi, le chanteur belge Arnaud se prête à l'exercice pour nous. Et il parle aujourd'hui d'un triangle de villes qu'il arpente dans les années 70, Bruxelles, Londres et Paris, où il croise par deux fois le couple Sartre de Beauvoir. C'est le quatrième temps de cette semaine consacré à la rue. Le rap de Kenny Arcana nous a servi lundi de miroir sociologique et de base d'analyse de discours sur la rue. Mardi, Marie Escorn faisait l'histoire d'un art à même la ville, d'Ernest Pignon-Ernest à J.R. en passant par Francis Alice, Gérard Zloty-Camien ou encore Banksy. Hier, mercredi, hashtag, blog, réseaux sociaux étaient les premiers espaces d'une mobilisation contre le harcèlement sexiste dans la rue. Harcèlement sexiste dont la prévention était finalement intégrée à l'article 14 de la loi relative à la sécurité dans les transports en commun examinée hier par une commission paritaire. Et le Sénat et l'Assemblée nationale parlent plus de la rue qu'à l'accoutumée ces temps-ci, mobilisés qu'ils sont autour de l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution. Cet état d'urgence ayant des conséquences non négligeables sur la circulation, la réunion, la manifestation dans les rues de nos villes, il a donc un impact sur l'organisation de spectacles dans la rue de nos villes, on en reparlera. Spectacle de rue qui travaille de toujours nouvelles formes, on en parle aujourd'hui avec la CTA Compagnie, deux de ses membres, Laetitia Laforge et Nicolas Verken. Vous produisez des spectacles, entre autres, dans la rue, et ce depuis 2000. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci. Et Laetitia Laforge, vous êtes aussi présidente de la Fédération Nationale des Arts de la Rue, on peut dire que ça tombe bien. On en parle aussi avec vous et Siège IB. Votre travail est à multiples facettes, dont une facette spécialement urbaine. Vous êtes une ancienne étudiante du Master 2 Art dans l'espace public, dirigé par Pascal Lebrun-Cordier. Et on parlera avec vous plus spécifiquement de l'expérience de psychanalyse urbaine menée à Tunis en juin 2015 et qui était à votre initiative. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Avant qu'on parle de vos pratiques artistiques à tous les trois et plus largement des pratiques artistiques urbaines que vous pouvez observer depuis plusieurs années, quel est le rapport que vous avez avec la rue de manière générale? Qui commence? Vous désignez tous de façon muette, ce qui est sympa mais un peu lâche. C'est à vous.
C'est la forme. Pour moi, la rue, c'est un espace de vie. C'est d'abord et avant tout un espace de vie et c'est surtout finalement la réalisation du projet politique de la société dans laquelle on veut vivre.
C'est là qu'il s'observe, vous voulez dire, ce projet politique, principalement?
Ouais, je pense que c'est là où tout un chacun peut observer. Pour l'espace public aujourd'hui qui nous concerne, c'est la privatisation et la marchandisation d'un espace commun. C'est, vous avez fait une émission lundi sur les jeunes qui dorment dehors ou qui vivent dehors. C'est les SDF, c'est les femmes que l'on voit pas ou que l'on voit traverser d'un point à un autre. C'est... Tout ça s'observe et tout ça nous raconte finalement le projet politique qu'on a tous collectivement mis en place.
Donc la rue comme un parchemin où s'inscrirait de manière assez sensible ce que par ailleurs nous construisons et nous développons et bâtissons comme société.
Bah, je pense qu'il y a les deux choses. Il y a cet endroit politique où effectivement qui est un lieu d'observation et puis il y a aussi le côté intime qui est le lieu de vie. C'est le lieu où on rencontre les autres, c'est le lieu où on s'étonne, c'est le lieu où on sourit de voir un petit gamin marcher, c'est le lieu où aussi on peut avoir peur, c'est un lieu d'émotion aussi, et donc entre cet intime et ce commun, c'est le lieu où l'on vit.
Et Sia Jaibi ?
Par rapport à la rue politique, moi, ça me parle énormément. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi la rue, c'est l'endroit où on prend des risques, où on confronte en fait notre individualité au public, au commun, et c'est à partir de là qu'il y a la prise de risque et la prise de responsabilité.
Et ça, c'est quelque chose que vous vivez en dehors de votre pratique artistique, cette prise de risque et de responsabilité en tant que femme, en tant que citoyenne ?
Je pense que oui, il y a un plus quand on regarde à travers le regard de l'artiste, mais je pense que tout le monde, n'importe qui, un citoyen par excellence, a besoin de cette prise de risque, de cette prise de responsabilité par rapport à sa rue, par rapport au trajet qu'il effectue dans sa rue, par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il ressent dans sa propre rue.
Nicolas Verclaine. C'est pas facile, hein, vous les avez laissé parler avant vous, il faut arriver après maintenant.
Je vais juste essayer de continuer un tout petit peu. La rue, finalement, ce que je me disais en vous écoutant, c'est que c'est le seul espace qu'on est obligé de partager tous ensemble. Et c'est le seul espace qui nous est vraiment commun. Et où dans lequel on se rencontre sans l'avoir choisi, et c'est plutôt générateur de plaisir si on a plutôt une énergie positive, mais c'est aussi l'endroit des conflits, c'est l'endroit des guerres, c'est l'endroit de la lutte, c'est l'endroit de la rencontre de manière générale, là, je crois.
Un de vos projets, un des projets de la CTA Compagnie qui s'appelle Petite Urbanité Libre témoigne d'une attention à la rue jusqu'à ses plus petits détails, hein, jusqu'à ces endroits vraiment, vous disiez tout à l'heure Laetitia Laforgue aussi, ces endroits d'intimité, les nôtres et celles de la rue elle-même. C'est un regard qui s'exerce, vous diriez que vous l'exercez depuis quand et comment ? Nicolas Verclaine.
De manière professionnelle, on l'exerce depuis une dizaine d'années. Après, c'est quelque chose qui s'affûte petit à petit, et c'est une focale qu'on a décidé de mettre à cet endroit-là parce que ça nous semblait essentiel. Parce qu'il y a une difficulté quand on fait du théâtre à parler du monde, puisque tout est fait, le bâtiment théâtre en lui-même est fait pour nous en isoler. Absolument, l'architecture même, la boîte noire nous isole du monde.
Avec ses bons et ses mauvais côtés.
Avec ses bons et ses mauvais côtés, c'est juste un choix. Nous, on fait partie de ces gens qui essaient de parler du monde dans un art immédiat. Et il nous est un moment apparu absurde de s'en isoler pour en parler, quelque chose qui nous allait pas. À nous, pas dans l'absolu, juste à nous. Et donc on a glissé petit à petit vers l'espace public et vers la rue. Et ce regard sur les petites urbanités libres est effectivement un pas important. Un moment où on a commencé à s'intéresser à toutes les chutes de l'espace public, toutes les chutes d'urbanisme, tous les endroits qui ne servent à rien, qui ne sont pas utilisés par le monde, mais qui sont quand même part de cette rue au sens large, de cet espace public. Et voilà, je dévie un petit peu.
Ça passe par exemple la production d'images, le fait de porter un regard sur ces endroits, sur ces chutes de l'espace urbain. Sia Jaibi, est-ce que c'est une façon de regarder la rue, celle de faire des images, pourquoi pas la photographier avec un téléphone portable, un appareil photo, ou la filmer ?
Ah oui, bien sûr. Surtout qu'aujourd'hui, on a besoin de la trace. La trace nous permet de voir et de revoir la rue d'une certaine manière, et de montrer le regard qu'on a directement par rapport à la rue, de le retranscrire d'une certaine manière, de le redonner à voir à d'autres. Et donc les moyens qu'on a aujourd'hui entre les mains, comme vous avez dit, comme pour la photo, comme pour le cinéma, enfin comme pour l'image en mouvement, la caméra, tout ça nous permet de garder une trace et de voir les choses différemment, je pense. Et de passer aussi, parce que moi, par exemple, dans mon cas, je suis entre la Tunisie et la France, d'avoir ce va-et-vient, ce pont entre les deux, qui permet de mélanger les images et laisser les images parler entre elles.
Et vous gardez ça ? Vous faites une sorte de collecte de petites traces de la rue ?
Ah oui, moi, déjà pour Tunis sur le divan, j'avais commencé par ça. C'est-à-dire que, en commençant déjà par les cartes, maintenant j'ai une collection de cartes assez importante.
Des cartes géographiques, topographiques ?
Les cartes que je suis allée chercher un peu partout. Ensuite les images, c'est-à-dire quand on faisait les différents protocoles d'observation, les marches, le travail en groupe, on gardait des traces, que ce soit des écrits ou des images en marche, des images de nous en train de parler à des gens, de nous, et aussi, à la fin, les portraits des gens qui sont restés jusqu'au spectacle final, c'est-à-dire les portraits qu'on a gardés et qui ont nourri le travail.
Nicolas Verken, je vous vois, comment on dit, hocher la tête, acquiescer. C'est parce que l'espace de la rue, c'est un espace que vous arpentez pour l'Acta Compagnie avant de produire des choses ?
Énormément. C'est déjà la source d'inspiration puisque c'est le lieu du commun. Enfin, et donc marcher, se déplacer, être dans la rue, c'est de là que viennent les envies de dire et de faire. Et puis ensuite, dans notre démarche, on a le repérage qui est extrêmement important, ce qu'on appelle repérage et qui est très large et qui consiste à aller se poser la question de où on fait, où on dit, où on amène les gens, où on se positionne et toutes les contraintes qui vont avec. Et oui, arpenter, on est presque plus dans les rues que dans les salles de répétition aujourd'hui, dans notre pratique. Diffusion mise à part, c'est-à-dire que tous les moments de diffusion se font dans l'espace public maintenant pour nous. Et il n'y a plus qu'une partie des répétitions qu'on fait entre quatre murs. Et encore, sur nos derniers projets, on s'est retrouvé à répéter dans les rues, littéralement même, avec notre avant-dernier projet qui se passait dans un camion.
Ça veut dire que ça manque, Laetitia Laforgue, la rue, quand on recommence à répéter à l'intérieur entre quatre murs ?
C'est-à-dire il y a besoin à un moment donné de se retrouver entre quatre murs et c'est absolument nécessaire, sauf que après c'est un peu limité quand même. Et que c'est vrai que pour le genre de travail que nous faisons, comme beaucoup d'artistes qui ont choisi l'espace public et la rue pour s'y exprimer, c'est un élément absolument essentiel du spectacle, c'est une des composantes. Et donc effectivement toute cette attention, elle n'est pas que au moment de faire, elle est aussi tous les jours en fait. Et on observe, on se dit ah tiens ça serait, oh là c'est une belle place, oh tiens là ils ont mis ces affreux bancs publics, on pourra plus faire ce qu'on voulait, voilà. Et c'est vrai que c'est des déformations un peu professionnelles, je dirais, mais c'est aussi, je pense, une attention qu'on a chacun, enfin qui a fait que ça a provoqué cet élan d'aller dehors. Et que du coup on entretient comme une petite boîte à outils aussi.
Quand tu y penses, quand même ça fait bizarre de te dire que le premier mot de la journée c'est alarme. Ça doit bien influer sur le reste, non? C'est pas bonjour ou bien bisous ou bien je t'aime qui m'est dit en premier, c'est alarme. Tu me diras, ça pourrait être pire. Ça pourrait être mort, ou bien pauvre mère. Mais quand même, alarme.
Alors sortir en chantant. Tu sommes chez ta voisine, celle que tu croises presque tous les jours. Si elle est là, tu lui diras bonne journée. Et voilà. Et elle se jette à ton visage. La guerre et la misère qui grandit depuis que tu es née.
Je n'ai pas peur. Pourtant, la guerre est juste là, de l'autre côté de la mer. Même pas. On peut y aller en voiture, tu te rends compte ?
Quand je lis ce mot, ce putain de mot, et qu'il me dit attention, qu'il clignote au fond de ta pensée, et que je ne sais pas encore bien pourquoi qu'il y a ce truc,
un instinct ou bien le contraire, quelque chose de très réfléchi que tu aperçois tout d'un coup au fond de toi, comme un gyrophare qui te dit pas aujourd'hui, ne te laisse pas faire, pas aujourd'hui.
C'est un extrait de juste avant que tu ouvres les yeux, un extrait d'un spectacle de l'Acta Compagnie. Quel est ce ronronnement que l'on entend, Laetitia Laforgue?
C'est le ronronnement du moteur du camion sur lequel sont assis les spectateurs.
Alors justement, on va préciser un peu ce dispositif. Il y a un camion qui est un camion gradin et qui roule, d'où le ronronnement. Et où sont ceux qu'on entend parler, qui sont les comédiens ?
Eh bien, ils sont dans la rue, sur le bitume, et ils marchent derrière le camion, puisque le camion est en mouvement, et c'est aussi pour ça qu'on l'entend ronronner.
Alors c'est un projet qui est dit à 3,5 km/h, fait pour une ville, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose de très travaillé autour du rythme de la déambulation, d'un camion qui roule à 3,5 km/h, c'est un rythme et une vitesse très inhabituelle. Qu'est-ce que vous avez cherché dans ce dispositif, Nicolas Verken?
Il s'agissait pour nous de... On est sur un texte. Nous on travaille à partir de textes beaucoup, et on se pose les questions du texte en premier lieu, liées avec la question du dispositif. justement. Et on était là sur une tentative de décrire un quotidien un peu universel, en tout cas quelque chose qui est le nôtre, qui est ce petit instant du réveil qui est entre nos deux sonneries de réveil, la première à laquelle on répond en appuyant sur le bouton rappel et qui nous donne 9 minutes de demi-sommeil, et de décrire ces 9 minutes là, ce qui se passe entre la première et la deuxième sonnerie du réveil, et de se décrire là comme membre de la communauté générale des gens qui y habitent autour de ces rues, et être dans ce dispositif là du camion qui passe, c'est aussi voir la petite vieille qui s'est levée tôt et qui passe derrière et dont on parle un instant dans le spectacle, c'est voir un volet qui s'ouvre, c'est être vraiment au cœur du monde. On se pose toujours cette question là de comment on fait pour être à la fois dans un rapport très intime entre l'acteur et le spectateur, parce que c'est le type de théâtre que nous on fait depuis le début, d'une intimité, d'un regard direct comme on est en train de se faire là autour de cette table, où on se regarde droit dans les yeux parce qu'on se parle vraiment les uns aux autres. Cette intimité-là.
Comment vous voulez conjuguer cette intimité des yeux dans les yeux, cette parole ça.
Et le monde. Et le fait qu'on est vraiment au cœur du monde et qu'on ne cherche pas à s'en isoler, on ne cherche pas à s'en protéger, et on cherche à parler de lui ouvertement, humblement, mais ouvertement, et vraiment, voilà, on est là, on est en train de faire cette chose-là, on est en train de parler du monde, et puis les gens sont là, sont avec nous, derrière, et les passants sont là, ils voient dans leur quartier ces spectateurs qui passent.
Et avec en plus ce qu'on offre aussi bien hein, dans les petites urbanités libres que dans ce spectacle, c'est le partage de ce regard dont on parlait justement, de cette boîte à outils. Et finalement, on invite aussi les spectateurs à regarder le monde en faisant un pas de côté, en le regardant un peu différemment, à travers les différents projets qu'on peut mener. Et je pense que c'est aussi le partage qui fait qu'on arrive ensuite à construire du commun, pour essayer de le faire ensemble et pas d'avoir les artistes qui savent et puis les autres qui écoutent gentiment. Et c'est vrai que du coup, il y a une expérience, c'est vraiment, enfin, notamment. Dans ce spectacle, juste avant que tu ouvres les yeux, les gens à la fin nous racontent quand même la sensation d'une expérience et d'un regard souvent sur leur quartier, parce que ils viennent parce qu'ils habitent là, quoi, et qui tout d'un coup ils redécouvrent aussi leur quartier, ou ils le découvrent, ou ils le regardent d'une manière totalement différente.
Et sans faire de généralité, différente comment ? C'est-à-dire quelle est la manière dont on redécouvre, en tant que spectateur habitant d'un quartier, les rues qu'on traverse assis sur un gradin camion à 3,5 km/h ?
Alors, moi, j'ai pas fait cette expérience, du coup, mais j'imagine par rapport à ce qu'ils en disent, en fait, ils regardent. C'est juste qu'ils se mettent à regarder.
Il y a cette chose, parce que moi j'ai fait cette expérience plusieurs dizaines de fois, plus de 100 fois, d'être dans le camion, parce que j'y suis à chaque fois. Et ce qui est très très étonnant, c'est qu'on a joué à la fois dans Paris et à la fois dans des toutes petites villes, et dans des villes vraiment très très différentes. Et jusque dans des petites villes, des gens nous disent « je me suis perdu dans mon village ». Et on peut vraiment se perdre, c'est-à-dire qu'on a tout d'un coup ce regard-là qui est effectivement borné sur les côtés, et où on a juste la vision une vision très cinématographique, on a un petit cadre là et on a le ciel au-dessus de sa tête et on est en marche arrière. Et rien que faire cette petite expérience là, on est en marche arrière régulière à 3,5 km/h non-stop pendant presque une heure et c'est tout. Et on tourne dans les rues de son village et on s'y perd. On s'y perd parce qu'on regarde jamais en arrière quand on marche, et ni quand on est encore moins quand on est en voiture. Et parce qu'on n'a jamais, on n'est jamais obligé de prendre un regard. Et peut-être que ce qu'on fait là, c'est qu'on oblige les gens à prendre un regard particulier sur ce monde-là. Et puis on a aussi la validité peut-être de penser que tout le travail artistique qu'on fait, en plus de juste proposer ce dispositif,
participe
un
de
texte
cette découverte.
Et puis des acteurs qui le jouent quand même, qui est l'origine de notre travail, participe énormément à changer le regard, évidemment.
Après la Révolution, la chose la plus importante, c'est, en tout cas pour moi, c'était tous ces corps qui investissaient l'espace, qui prenaient la rue, qui sortaient petit à petit. Mais aussi, et la chose la plus importante, ces corps seuls qui se retrouvent dans la rue vide et qui reviennent d'ailleurs dans des télés. Cette femme qui est dans une rue le matin, découverte, et qui s'adresse à Dieu et qui crie comme une tragédienne, comme une grande tragédienne qui s'adresse à Dieu et qui lui dit « On l'a gagné ».
Raja Ben Ammar, dans la conférence du 12 mars 2011, lors du colloque international organisé par l'Association de Vigilance et d'Engagement pour la Révolution Tunisienne. C'est un son que vous nous avez suggéré, Essia Jaibi. C'est un son qui est très émouvant dans la description, même très courte là, des corps qui prennent la rue. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'actif dans cette formule, le fait de prendre la rue. Pourquoi est-ce que vous souhaitiez entendre cette femme ?
Parce que Raja Ben Ammar, c'est une très grande actrice, metteur en scène tunisienne, et qui s'est beaucoup intéressée au corps dans l'espace, au corps dans la rue, et qui, jusqu'à aujourd'hui, avant et après la Révolution, a toujours travaillé pas seulement à l'intérieur d'un théâtre, ce qu'elle fait toujours, mais aussi en extérieur. C'est-à-dire qu'elle a confronté, même quand l'espace public, l'espace politique était confisqué, quand les corps ne pouvaient pas s'y mouvoir comme ils le voulaient, elle a quand même essayé de mettre des corps dans cet espace et de les laisser vivre, de les laisser parler. Et donc, pour moi, c'est aussi ça qui m'a inspirée dans mon processus à moi de faire de l'art de rue en Tunisie. C'est ce genre de discours, ce genre d'image où on peut arracher de la liberté, arracher son rapport à la rue, même quand c'est compliqué de le faire.
Et justement, quand vous précisez « même quand c'est compliqué de le faire », et si on se situe, même si les choses sont probablement pas radicalement ou totalement différentes aujourd'hui, mais si on se situe avant 2011, d'aucuns disent que faire un pas dans la rue et le faire d'une certaine manière, c'était déjà résister, c'était déjà entrer en subversion.
Oui, bien sûr. C'était difficile de créer ou d'avoir un acte politique créatif dans la rue, parce que la rue n'appartenait à personne. Tout à l'heure, on parlait de la rue qu'on partage, la rue qui confronte l'individu au commun. Mais là, la rue n'appartenait à personne. Personne ne pouvait avoir une part de cet espace commun. Et après la Révolution, il y a eu, bien sûr, on a arraché cet espace-là, on a voulu l'avoir pour nous, on a voulu en parler, on a voulu parler dans cet espace et de cet espace. Mais ça reste quand même compliqué, parce que quand pendant des années, cet espace a été confisqué, on commence tout d'abord par la parole. Donc là, en Tunisie, depuis quelques années, la parole, certes, est libre. Ça veut dire la parole dans la rue, dans l'acte créatif de parler, de discuter. Mais le corps ne s'est pas encore approprié cette rue. Et donc, c'est peut-être ça le rôle des artistes, c'est de pousser, c'est d'encourager les corps à se mouvoir dans la rue, à s'exprimer autrement que par la parole.
Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant dans les propos de Raja Ben Ammar, c'est qu'elle met en scène presque dans sa parole ces deux temps, c'est-à-dire un temps de révolution où les corps sont dans la rue et sont dans la rue collectivement, voire en masse, et ce matin d'après la révolution, hein, qu'elle rend presque métaphorique, où d'un seul coup la rue est un peu vide et il y a un corps un peu vieux. D'ailleurs, un peu plus tard dans cette conférence, elle parle d'un homme qui est seul, qui est vieux et qui remercie les corps plus jeunes qui sont sortis pour lui. Même en disant ça, j'ai des frissons tellement il y a vraiment cette idée de corps dans la rue qui arrive presque après la bataille, quoi.
Ah oui, parce qu'il y a eu, on a tous vu la foule qui est sortie. La rue a été arrachée avec une foule immense, mais cette foule a laissé aussi un certain nombre d'individus qui ont envie de continuer d'arracher cet espace-là. Et donc on le voit maintenant, on voit que, par exemple, tout ce qui se passe aujourd'hui dans les arts de la rue en Tunisie, il y a cet élan-là qui ne s'est pas effondré après la révolution. Vraiment, on continue à tirer pour voir jusqu'où ça mène, pour voir juste comment on peut continuer à en parler, mais dans une forme de liberté un peu plus assumée, on va dire.
Tout à l'heure, Laetitia Lafourcq parlait à juste titre d'une boîte à outils urbaine, hein, d'abord par le regard et puis ensuite par les actes. Est-ce que vous diriez que l'art de rue en 2011 était un des outils de cette boîte à outils pour la révolution ? Est-ce que ça a été utilisé comme tel ?
Pas directement, on ne peut pas dire les choses comme ça, mais c'est clair que les arts, de manière générale, ont contribué à cet élan-là, à cette révolution, et ça continue, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, 5 ans après, que c'est aussi maintenant la révolution, qu'une la véritable révolution, en tout cas pour les jeunes, pour la culture, c'est aujourd'hui. Parce qu'il y a eu un moment où on savait pas ce qu'on voulait, on savait pas ce qui se passait. Là, on a commencé à digérer et à commencer à savoir comment en parler, comment traiter des sujets qui nous sont venus comme ça en pleine gueule. Et maintenant, il faut savoir les traiter.
Puisque vous parlez des arts de la rue en Tunisie, ça veut dire que vous les observez, j'imagine. C'est une ébullition qui ressemble à quoi, si vous deviez faire une sorte de paysage global de ce qu'on y voit?
Il y a vraiment, ça bouge énormément. Vraiment, c'est excitant à voir, on va dire. Parce que il y a des espaces maintenant où on traite de ça, c'est-à-dire des espaces réservés aux arts de la rue, où on discute, où il y a des séminaires, des rencontres, où on teste de nouvelles choses, où les gens sortent dans la rue, il y a des collectifs de poésie de rue, de danse, énormément de danse. Il y a bien sûr des street artistes, il y a beaucoup, de plus en plus de théâtre, et en plus il y a différentes formes, c'est-à-dire que ça prend des voix très différentes pour parler de choses différentes. Il n'y a pas d'art de rue tunisien, comme il n'y a pas un art de rue français, c'est différentes individualités, différentes créativités, différents sujets à traiter. Et donc, c'est ce bouillonnement-là qui est vraiment intéressant à voir et à étudier aujourd'hui de près, et voir que ça ne dépend ni de l'âge, ni du passé de chaque artiste, mais vraiment d'une envie, d'un besoin de parler de ce qui se passe.
Et oui, vous parlez du passé de chaque artiste. Il y a des artistes qui sont passés dans la rue. Vous diriez que des personnes qui n'investissaient pas la rue pour les raisons qu'on a décrites, des raisons politiques, des raisons de confiscation de cet espace public, ils ont profité de la libération de cet espace pour travailler d'autres formes?
Oui, enfin, je ne dirais pas profiter, mais il y a aussi un processus pour sortir dans la rue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement parce que la rue est confisquée par un régime politique qu'on ne sort pas dans la rue. Il y a aussi un processus intérieur qui fait que parfois, on a plus de facilité à commencer dans les normes, on va dire, pour prendre ensuite le risque, parce que c'est un double risque de sortir dans la rue. Déjà que créer, c'est un risque, et de créer à l'extérieur, et en plus dans un pays comme la Tunisie, c'est un triple risque même, je dirais. Et donc, c'est parfois un processus individuel de se dire, là, je suis prêt, là, j'ai envie de tenter. Là, cette rue-là, ça peut être un coup de foudre avec une rue, avec une ruelle, avec un pont, avec une place publique. Et à partir de là, on a envie de tester des choses. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça.
J'ai rappelé tout à l'heure que l'ACTA Company avait commencé dans les années 2000 par ne pas être que dans la rue. Alors vous disiez tout à l'heure, Nicolas Verken, que maintenant c'est plutôt le cas, vous êtes plutôt que dans la rue. C'est un processus qui ressemble à ce que décrit Essia Jaibi, un processus petit à petit qui va vers la prise de risque urbaine. Laetitia Laforgue.
Oui, c'est un long processus pour nous, mais chaque histoire est différente. J'aime bien que Essia rappelle la diversité en fait des expériences, et surtout qu'il n'y a pas un art de la rue français, un art de la rue tunisien ou allemand ou je sais pas quoi, mais que effectivement ce sont des individualités qui s'expriment, et la rue le permet parce que comme elle confronte une prise de risque différente, avec pas toujours un public convoqué en plus, il faut être vraiment sûr, quoi. Il faut être dans son propos, même avec plein de doutes et plein de questions, bien sûr. Mais cet élan-là, c'est presque charnel. On parlait des corps tout à l'heure. Il est vraiment, il est charnel parce qu'il est aussi très fortement politique. Et après, pour nous, ça a été des étapes. Différentes. On n'a jamais non plus travaillé dans des théâtres à l'italienne. Hein. Voilà, on n'a pas fait un bon. On n'est pas passé de la comédie française à la rue.
Ce qui serait possible par ailleurs.
Ce qui serait tout à fait possible, je pense. Mais voilà, c'est pas notre parcours. Notre parcours, c'est celui aussi d'une jeune compagnie dans les années 90-2000, où les espaces pour l'émergence étaient très compliqués à trouver aussi pour le théâtre. Je pense que c'est encore une question, même si d'aucuns ont essayé de faire des efforts pour ça, et que du coup on s'est retrouvé beaucoup dans des friches, des squats, d'autres lieux.
Comme des lieux possibles en fait, comme les
voilà,
lieux qui restent possibles.
Intermédiaires, et pour nous ils ont été intermédiaires sans doute entre quelque chose peut-être qui nous aura amené vers des lieux traditionnels de la boîte noire à un lieu qui est celui de l'espace public.
Pour moi, le passage à la rue, il va avec une troisième question. Je m'explique un petit peu. C'est que quand j'étais metteur en scène de théâtre en salle, je me posais la question de ce que j'avais à dire, ce que nous avions à dire, de comment on allait le dire. Et puis voilà, C'était ça notre travail et nos préoccupations. C'est qu'est-ce qu'on va dire et comment on va le dire. Et puis petit à petit s'impose et s'est imposé à nous une troisième question qui est où tu vas le dire et où, dans un sens large, dans quel dispositif tu vas le dire. C'est une question qui se posait pas, qui ne se pose pas dans un monde du spectacle vivant comme celui qu'on a en France, qui est quand même extrêmement codifié et où tu vas dire, tu vas dire sur une scène dans le noir avec le public dans le noir, toi éclairé, et puis il y aura un cadre de scène. Et
ça veut pas dire que ce cadre-là n'est jamais questionné.
Non.
Qu'on soit bien d'accord.
Non, absolument, hein. Absolument. Et ce travail est fait, mais il est absolument pas systématique, et c'est un effort très, très grand que de passer au travers, et c'est tout d'un coup un geste gigantesque quand on travaille dans des théâtres que de questionner cette chose-là. C'est-à-dire qu'on n'a même pas, en France, on a très, très peu de scènes qui proposent la bifrontalité, ou la quadrifrontalité ou d'autres choses. On se pose pas cette question-là. On se pose très peu cette question-là. Et le passage à la rue rend cette question essentielle et aussi importante que les deux autres. Pas plus, en tout cas. Il me semble que si on se met à se poser cette question plus que les autres, on fait une erreur. Mais qu'il y a vraiment un équilibre entre qu'est-ce que tu dis, comment tu le dis, et puis où, dans quel dispositif tu le dis.
Elevator going down. Little Joe from Kokomo, it rattles to the ground. The dice is laughing at the man that it throws. I'm rolling over to the low side. Red and you're dancing real slow. 29 miles left to go. The chain monkeys help you with your load. I'm rolling over to the low side of the road. Jezebel is naked with an prosecution tells you to relax. Your head feels like it's ready to explode. You're rolling over. You're rolling over. Where the clapper has been ripped out of the bell. The flapper has been kicked out of the hell. The horse whips the man and he rolls, rolling over to the low saddle. A dog won't bite if you beat it with a bone. She's so shy when she's talking.
France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richon.
Sur la place publique, on allonge une quarantaine de divans et on interroge les habitants sur leur ville pour savoir ce qu'ils en pensent et comment ils l'aperçoivent, pour déjà détecter là les principales névroses. Ensuite, on interroge les spécialistes, les archivistes, les historiens, les urbanistes, et puis on travaille beaucoup dans les cafés, dans les bars, pour s'imprégner de la culture locale et des blagues qui circulent sur la ville, très spécifiques à la ville. Et puis ensuite, on fait une synthèse de ces névroses avant de détecter un PNSU, un point névrose stratégique urbain, c'est-à-dire un lieu de la ville où se focalisent les névroses, avant de proposer donc des TRA et des TRU, ce sont des traitements radicaux urbains ou des traitements radicaux architecturaux, qui vont permettre à la ville de retrouver son plein épanouissement d'ici 2100, 2080, si tout se passe bien.
Un optimiste, c'est la voix de Laurent Petit au micro d'eau de la vigne dans l'émission La Vignette. En novembre 2009, juste après la voix de Tom Waits, Low Side of the Road, ça vous fait sourire la voix de Laurent Petit ici à Jaïbi. Peut-être ça nous permet de resituer. On parle des spectacles dans la rue ou d'un art de la rue depuis tout à l'heure 14h et vous êtes à l'origine d'une transplantation d'un projet qui était préexistant, psychanalyse urbaine à Tunis. Préexistant notamment grâce à Laurent Petit. Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Oui, alors, oui, ça me fait sourire parce que ça me fait toujours sourire d'entendre Laurent parler parce que il est toujours.
Ouais. Il est toujours quoi?
Il a un humour très spécial. Et donc, en fait, j'ai rencontré Laurent Petit dans le cadre du master projet culturel dans l'espace public à Paris 1 l'année dernière. Et on devait avec toute ma promotion, on devait passer 3 jours avec Laurent Petit pour psychanalyser le Grand Paris. Donc on a essayé du moins, et 3 jours c'est trop peu, mais au moins on était rodés un peu à la psychanalyse urbaine, qui est une méthode, pour moi en tout cas, incroyable, parce que en fait c'est vraiment le lien entre ce que devrait être pour moi, du moins, beaucoup de choses en lien avec l'art de la rue, c'est-à-dire entre la recherche, le scientifique entre guillemets, et la poésie. Et Laurent Petit, même dans ses mots, on voit les deux, en fait. C'est un faux scientifique. C'est un scientifique qui est complètement décalé. C'est un clown scientifique, un poète psychanalyste. Et donc, dès que je l'ai rencontré, je l'ai entendu parler. Il nous a présenté, comme il le dit maintenant, rapidement, les traumatismes, les dysfonctionnements de la ville, les solutions architecturaux. Et je me suis dit, pourquoi pas à Tunis? C'est une bonne manière de prendre la température un peu 4 ans après la Révolution, de commencer à toucher ce qui a touché dans la rue sans forcément brusquer les gens, puisqu'on va d'abord, avant de présenter quoi que ce soit, on va leur parler en fait. On prend le temps d'aller leur parler, de poser des questions et de voir à partir de là qu'est-ce qui est possible de faire. Et donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Donc ils sont Laurent Petit et son équipe, donc Charles Alterfer et Camille Faucher, sont venus passer plus de 2 semaines à Tunis. 2 semaines pendant lesquelles on a organisé des opérations divan. Donc tous ces mots techniques, c'est les mots de l'Agence nationale de psychanalyse urbaine.
L'ANPU,
qu'on a fait qu'adapter au contexte tunisien.
Et alors une opération divan à Tunis, ça ressemble à quoi?
Alors une opération divan, c'est vraiment prendre des chaises longues et des tabourets. Et se mettre dans la rue avec des blouses, parce qu'on est quand même des scientifiques, et appeler les gens à venir s'asseoir et à leur poser un certain nombre de questions. On a un petit questionnaire chinois du genre « Si votre ville était un animal, quel animal serait-elle ?»
C'est un peu loin de la psychanalyse, le dernier mot. Oh, oui.
C'est très loin, mais en même temps, ça révèle énormément de choses. Et donc, ça dépendait des quartiers. Nous, on a fait dans plusieurs quartiers, on allait se poser pendant 3-4 heures, parfois on restait beaucoup plus, à parler aux gens.
À quel moment de la journée?
La matinée, des fois ça tardait, parce qu'il y avait vraiment des quartiers où pendant 2 heures de temps, on voyait passer mais 300 personnes. Donc, fallait prendre le temps, et surtout que la consigne de Laurent, c'était, si quelqu'un a envie de parler, tu restes. Donc, il y avait des personnes qui passaient 4 heures à parler, alors que c'était des questions simples. Mais il y avait aussi un besoin de... En fait, dès qu'on se met à écouter des gens, surtout à Tunis, je sais sûrement ailleurs, mais surtout à Tunis, dès que ce n'est ni pour les médias, ni pour un but politique, les gens se lâchent. Parce qu'ils savent qu'ils ont envie de parler, mais ils ne savent pas à quoi ça va mener, donc c'est bon. Il y a une certaine confiance qui est là. Et donc, en parallèle à ces opérations divan, on récolte bien sûr le maximum d'informations. On a créé plusieurs processus, des protocoles d'observation, en groupe, en duo ou individuel, pour aller visiter un peu la ville. Et aussi un cycle de rencontres-débats avec des professionnels, des spécialistes, des sociologues, des psychologues, des historiens, des architectes, pour parler un peu de Tunis, pour nourrir un peu ce portrait qu'on avait envie de bâtir. Et pour finir par présenter ça, les résultats, le diagnostic, comme ils disent, sur la place publique. C'était en soirée, pendant le mois de Ramadan, après la rupture du jeûne, en soirée sur une place publique, sous forme de fausse émission de télévision. Donc C'est très particulier.
Tout à l'heure, Laetitia Laforgue disait on n'a pas forcément rendez-vous avec le public. D'ailleurs, on en parlera dans un instant. Mais tout ça, ça se faisait. Alors, on imagine les opérations d'Ivan, installation des transats, personne n'est prévenu. C'est le passage qui crée voilà, la manière dont on s'assoit et dont on parle. Ce moment de restitution sous forme de fausse émission télévisuelle, vous l'aviez un peu annoncé, vous l'aviez un peu mise en scène dans l'espace public ?
Oui, on a annoncé uniquement qu'il allait y avoir une restitution dans cet endroit-là, telle heure, tel jour. Mais les gens ne savaient vraiment pas ce qu'il allait y avoir. Mais même nous, c'est au fur et à mesure qu'on a décidé. Parce que fallait en parler, fallait exposer tout ce qu'on avait. Ben, on a eu une matière mais incroyable qu'il fallait montrer, qu'il fallait en parler, mais en même temps d'une manière drôle, un peu loufoque, un peu théâtrale. Sinon, ça passe pas parce que ça peut vexer aussi. La psychanalyse urbaine peut vexer des gens, peut brusquer des gens. Et donc, on a réfléchi. Ensuite, on s'est dit, bon, on est de faux scientifiques. On va nous appeler dans une fausse émission pour présenter ces faux, pas faux, mais ces résultats. Et donc, il y a eu des gens qui sont venus exprès pour y assister, ceux qui en ont entendu parler, et d'autres qui étaient là, qui étaient en train de boire leur thé après la rupture du jeûne et qui sont retournés leur chaise pour regarder cette émission. Et on a eu un public de 300 personnes qui étaient là pendant une heure et demie et qui a en plus interagi. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à nous poser des questions par rapport à ces résultats-là. Et c'était vraiment très
intéressant. Du genre ?
Genre, il y avait un enfant qui est venu, qui a pris le micro, qui s'est assis, qui nous a dit « Oui, mais vous parlez, moi je comprends pas grand-chose. Par contre, moi, tout ce que je vois, c'est que la rue, elle est sale et que moi, j'en ai marre que ça soit sale. Trouvez-moi une solution. » Donc il y avait ce genre de réaction un peu inattendue, mais qui rajoutait quelque chose. Il y avait ce lien-là qui se crée sans qu'on s'y attende, qui fait tout le charme des arts dans la rue.
Et puis c'est un enfant qui vous rapatriait du côté politique de la chose, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait justement de la prise de responsabilité individuelle ou collective dans l'espace de la rue. D'une certaine manière, en interpellant sur la propreté ou la saleté de la rue, cet enfant rappelait que il y avait des décisions éventuellement à prendre.
Ah oui, c'était la voix de la raison, cet enfant. Oui, il nous rappelait un problème d'ailleurs qu'on présentait aussi dans les résultats.
Qui avait été soulevé dans les résultats. Ouais.
Mais d'ailleurs, si on peut recommander aux auditeurs la lecture du Divan des Villes de Laurent Petit, ça mérite vraiment le détour. Alors, il n'avait pas encore fait Tunis,
non, mais
c'est un recueil sur la psychanalyse de plusieurs villes et vraiment, c'est à recommander et même à offrir.
Vous venez de le recommander.
Oui, c'est hilarant.
Disons qu'en tant que comédienne, je porterais plus un regard sur ce type de spectacle, quoi, qui me satisfait pas complètement non plus au niveau du travail, quoi, parce que j'ai plus l'impression de produits qu'on vend. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a beaucoup de spectacles qui fonctionnent sur une idée et non pas sur une vraie urgence à dire quelque chose et justement à profiter de la rue pour venir apporter une vraie parole théâtrale, quoi. Et moi aussi, un peu ce qui me trouble, quoi, dans ce type de spectacle, c'est la passivité du public, quoi. C'est-à-dire, parfois on les insulte, parfois on leur balance des choses dessus et les gens ne bougent pas, quoi. Et ça me... Je me dis, où est l'époque des tomates, quoi, parce que vraiment, de temps en temps, ça sera nécessaire. Hein.
Où est l'époque des tomates, demande une habitante et comédienne de Chalon. C'est une archive diffusée sur France Culture en 1993, il y a donc 23 ans. Une archive d'une émission qui s'appelait Pays d'ici. Intéressant parce que cette femme parle du rapport au public. Moi, ce qui m'importe, dit-elle, c'est le fait que le public ne soit pas passif. Ça nous permet aussi de parler de Chalon et de plus généralement des festivals d'art de rue dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à maintenant puisqu'on a parlé plutôt d'initiatives assez disséminées et individuelles. Je m'adresse peut-être à la présidente de la Fédération des arts de la rue, Fédération française, Laetitia Laforgue. En quoi est-ce que ces festivals sont un moment peut-être de cristallisation de la création des arts de rue en France ou pas du tout ?
Moi, je ne sais pas s'ils sont à un moment de la cristallisation. En tout cas, c'est un rendez-vous. Alors, il y a beaucoup de festivals.
Qu'est-ce que j'allais dire ? On peut en citer peut-être quelques-uns.
Oui, alors, dans les plus connus, disons, ou les d'importance conséquente, il y a Chalon dans la rue, il y a le festival d'Aurillac aussi, qui est mondialement connu, je pense. Et puis, voilà, il y en a d'autres, à Sotteville-lès-Rouen, à Ramonville, à Toulouse, à Vieux-Condé. Voilà, il y a beaucoup d'endroits où finalement le festival est un rendez-vous, mais il y a aussi d'autres d'autres types de rendez-vous qui se font plus sur l'année. Et je dirais que l'un et l'autre sont de toute façon une possibilité de la rencontre, avec une œuvre, avec un spectacle, et qu'ils apportent aux spectateurs des choses différentes. Et notamment, il y a depuis quelques années maintenant, hein, parce que les arts de la rue ont eu un peu leur... On date leur naissance avec les grandes formes des années 80, qui étaient très festives, très impressionnantes. Et puis, c'est vrai que depuis les années 80, il y a quand même beaucoup d'eau à passer sous les ponts. Et aujourd'hui, on est aussi sur un travail au long cours, à l'année, avec des équipes qui sont en place et qui ont aussi d'autres types, offrent d'autres types de rencontres. Alors, on parlait de public convoqué, de public non convoqué. Il y a aussi beaucoup de projets participatifs. Il y a toute une richesse et une diversité, voilà, dont les festivals sont la partie visible de l'iceberg. Et pour ça, ils sont importants. Et il y a aussi toutes ces expériences. Il y a parfois des spectacles pour un spectateur et qui se fait de façon très intime. Je sais pas, on pourrait imaginer au fin fond de la Lozère, quoi. Et c'est tout aussi important. Et voilà, cette palette d'action, elle est intéressante parce qu'elle offre aussi aux artistes des façons de s'exprimer extrêmement diverses et du coup aussi une richesse de création et de créativité qu'on n'aurait pas si on était juste sur les modes festival.
Je reprenais aussi les propos de cette femme dans cette archive de 1993, puisqu'elle parle du rapport au public, si on pense notamment aux recherches menées par Emmanuel Vallon sur cette question-là, un public constitué, un public avec lequel on recherche toujours un rapport, le public est à faire, écrit-il. Comment est-ce que, par exemple, dans les projets de psychanalyse de rue, vous posez cette question du rapport au public, peut-être vous vous déplacez dans ce rapport-là, peut-être vous l'inventez?
Bien sûr, en tout cas, faut l'inventer, ça c'est sûr, mais il y a aussi une crainte, parce que j'ai pas parlé de ça tout à l'heure, il y a aussi la crainte d'un public qui n'est pas habitué à voir des choses dans la rue, à voir quelque chose qui bouge de manière qui ne rentre pas dans son quotidien, quelque chose qui est particulière, qui est bizarre, et ça crée quand même une peur pour celui qui produit cette action-là, des réactions, parce qu'on en a vu des réactions un peu bizarres, un peu agressives. Mais faut savoir, petit à petit, faut savoir comment réagir. Parce qu'on crée quand même un espace, un temps ensemble. Donc faut voir, faut aussi, du point de vue de l'artiste, avoir une conscience de ces risques-là. Mais c'est vrai qu'il faut aller le chercher, le public. Et puis c'est un des plaisirs des arts de la rue que de découvrir à chaque fois dans un espace différent, un public différent, un regard. Tout à l'heure on parlait du regard, un regard différent, des regards différents, et de savoir que la fois d'après ça va être complètement différent aussi.
Sur le public à capter ou en tout cas à aller chercher sur un dispositif comme celui du camion gradin, Nicolas Verkan, d'une certaine manière vous n'avez pas à aller le chercher puisque j'imagine que il s'assoit. Il est constitué. En revanche, les passants de cette ville sont-ils un public à capter en plus ?
Oui, absolument. Et c'est une des choses. Merci, parce que c'est une des choses que j'avais à dire vraiment dans ce travail d'aller de déplacer la forme spectaculaire en dehors des salles et de la poser dans la rue. Il y a cette chose-là, c'est que là, on ne demande plus aux gens d'aller à la culture. En tout cas, on demande moins aux gens d'aller à la culture et à des formes, notamment un peu qui peuvent paraître exigeantes. Comme les nôtres, mais on se déplace jusqu'à eux. Et oui, on a avec depuis qu'on est sorti, et notamment avec ce projet, juste avant que tu ouvres les yeux dans le camion, on a des publics qui ne seraient jamais venus nous voir dans une salle parce que
ceux qui sont sur les gradins ou ceux qui sont dans la rue encore.
Et ben souvent ceux qui sont dans la rue deviennent ceux qui sont sur les gradins. C'est-à-dire que oui, nous on fonctionne avec un rendez-vous donné, avec un ticket. On aime bien déchirer le ticket à l'entrée du camion. Ça nous amuse aussi de recréer tout ce décor. Mais la première fois, c'est que des gens qui nous connaissent ou qui connaissent le festival ou le théâtre qui nous programme.
Des gens qui éventuellement iraient dans la fameuse boîte noire.
Voilà, absolument. Et puis, comme on a déjà répété avant, on fait des repérages et puis on coupe les branches d'arbres qui dépassent un petit peu, qui empêchent le camion de vraiment passer. Et puis on discute avec les gens en leur demandant de bouger leur voiture. Et puis on devient événement sur un quartier et dans cet espace qui nous est commun. Et du coup, oui. oui, la mamie qui passait un matin finit par monter dans le camion et par s'apercevoir peut-être que cette chose peut lui plaire ou pas. Mais au moins elle est venue. Et elle ou le dealer de coke chilien ou l'atelier de macramé ou vraiment. Et je parle d'expérience.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richaud.
Et il est 14h49 sur France Culture. Depuis la saison dernière, nous rencontrons, nous aussi, toutes sortes de personnes, alors pas dans la rue, parfois, cependant, pour leur demander de nous raconter des moments qui ont marqué leur parcours et qui ont initié, selon eux, des nouvelles vagues de pensée, de vie, de création. Et cette semaine, nous avons proposé l'exercice au chanteur Arnaud. Aujourd'hui, il évoque sa jeunesse, passée en partie dans les années 70, dans le triangle Bruxelles, Londres et Paris.
Je me souviens encore quand... J'étais beaucoup à Londres. Et c'était dans les années 68, j'étais 19 ans, et j'ai rencontré une Française. Elle était au pair à Londres. Et elle était habillée comme Courrèges. Tu connais ça, Courrèges? Avec une coupe. Il y a encore quelqu'un qui a ça, c'est Mireille Mathieu. Une coupe comme ça, tu vois. Et j'ai rencontré elle à Londres, et j'étais souvent à Londres dans la rue à Carmody Street. C'était un quartier où il y a des clubs de rock et des boutiques de ce temps-là. C'était très connu. Et elle m'a dit un jour, il dit, Arnaud, donc je dois aller à Paris parce que elle habitait en dehors de Paris. J'oublie le nom, c'est un quartier quoi. Enfin, et on a pris le train de Victoria Station jusqu'à Dover et de Dover Calais et de Calais à Paris, et ça a duré très longtemps. C'était presque 24 heures quoi. Et je me souviens encore, j'arrive à Paris, et on était, elle dit, donc je vais te montrer Paris. Et j'étais à Bastille, et je vois plein de jeunes dans la rue. Et ce sont des étudiants qui se manifestent contre le bazar. Et je vois, au premier rang, il y a un mec avec des lunettes, avec une femme. Et je dis, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle dit, ma copine, elle dit, donc ce sont des étudiants qui se manifestent, et ce mec-là, il s'appelle Sartre. Il était avec une femme, Beauvoir.
Simone de Beauvoir.
Oui, avec Simone de Beauvoir. Ouais. Et je dis, tiens, et c'était la manifeste, la gauche et tout le bazar. J'y tiens. Et dans le temps, dans les années 60, les jeunes qui font des études, ils viennent des familles riches, middle class. C'est pas des ouvriers, quoi. Ils peuvent pas payer ça dans le temps. Enfin, c'était comme ça. Et je vois, tiens. Donc c'était pendant la journée, avec la main gauche en haut. Et le soir, elle me montre un boulevard, quoi, allez, avec le Sacré-Cœur, le boulevard, allez, j'ai un trou dans moi, allez, ici à Paris, c'est très connu, les Champs-Élysées. Et je suis dans le champ, elle montre les Champs-Élysées, et on passe une brasserie. C'est le soir, et je regarde dans cette brasserie, je dis, tiens. Il dit, ça c'est une brasserie très connue. Et je vois un mec avec des lunettes en train de boire du champagne. Et je dis, tiens, c'est le même mec que j'ai vu dans la rue. Je dis, mais ça colle pas. La bourgeoisie dans le temps boit le champagne. Ah bah, dans ma tête comme ça. Et ça m'a frappé, quoi. Et j'ai dit, j'ai eu un truc, ce sont des gauchistes avec des trous dans leur poche. Tu vois le bazar. Et maintenant, je pense à aujourd'hui, comme le conservatisme a une érection comme la Tour Eiffel, tout est calculé, quoi. Il n'y a plus de révolte chez des jeunes. Et je trouve ça dommage. Mais je parle pas avec la nostalgie des années 60, hein. Mais je vis avec ça, c'est mon bagage.
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams. Gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dream. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered scheme. And gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken
Marianne Faithfull qui chante après Arnaud le boulevard des Broken Dreams. On a parlé avec vous des choses que vous faisiez tous les trois. Est-ce qu'il y a des rêves de spectacles dans la rue? Pas encore réalisés, des spectacles à venir?
Oh oui, plein, mais c'est des secrets. Hein.
C'est des secrets.
Et pas que des spectacles.
Et pas que des spectacles. Ok, vous avez un grand sourire, ça fait plaisir.
Et vous,
Essia? Ah oui,
oui.
Vous rêvez de festivals?
Je rêve de
dans la rue.
Oui.
C'est des rêves à plus ou moins long terme, vu votre mou, non?
Non, pourquoi?
Non, je sais pas, ça a l'air d'être assez réalisable, pourquoi oui. Pas dans un an, deux ans, ça a l'air d'être très proche comme rêve.
Oui, c'est vrai.
Bon, on a parlé de psychanalyse urbaine que vous avez co-initiée à Tunis, entre autres Essia Jaibi. Alors on peut aller voir notamment le site du Théâtre National Tunisien. Et puis on a parlé tout à l'heure de l'ouvrage de Laurent Petit consacré aux psychanalyses urbaines qui vous réjouissait tous les trois. Et puis la CTA Compagnie, on pourra voir leur travail... Bon, secrètement, le site du théâtre lemontfort.fr à Paris ouvre ses réservations quand?
Lundi.
Lundi prochain pour le spectacle Il n'y a plus de ville, 19 ou 20 février, on ne sait pas. Et concernant le spectacle dont on a majoritairement parlé juste avant que tu ouvres les yeux, ça c'est sûr, ce sera au festival Terre de Parole en Normandie en mars. C'est ça?
En avril.
En avril, c'est juste ouais. Le mois d'après.
Tout le mois d'avril, toute la Normandie.
Merci beaucoup, on mettra ça sur le site internet. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous.
Merci.
Et les nouvelles vagues sont terminées pour aujourd'hui. Pour réécouter celle-ci ou celle d'avant, rendez-vous sur le site franceculture.fr. On peut retrouver encore plus facilement qu'avant les abonnements aux podcasts et toutes les émissions, toutes les archives, toutes les séries et la programmation musicale. Twitter, Facebook, ça continue d'être possible de se parler et de s'écrire. Merci à Romain de Bac de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi. L'émission est réalisée par Somanina, avec aux manettes aujourd'hui Jacques Azubert et Charles Barjou, au droit d'auteur, dans un instant. Mathieu Garrigou-Lagrange qui est toujours avec Melville. Thank you.